Chers auditeurs, bonjour. Église en marche, votre émission de Radio Grand Ciel depuis les studios de Nogent-le-Rotrou, au micro Chantal Rat, en compagnie de notre curé, le père Hugues de Tillet. Bonjour père.
Bonjour Chantal, bonjour chers auditeurs.
Eh bien père, il y a un sujet que nous ne pouvons éviter aujourd'hui, c'est que nous sommes en carême. Mais alors, le carême, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Effectivement, on ne peut pas y échapper. Le carême n'a pas bonne presse parce que c'est toujours un moment où les chrétiens se disent « Ouh là là, dans quelle, de quelle manière vais-je vivre ce moment? Est-ce que ça ne sera pas un peu rude? Est-ce que je vais vraiment bien le vivre ?» On sait que la joie, nous la réservons surtout pour la fête de Pâques et pourtant, le carême est un moment extrêmement précieux pour bien des raisons.
Oui, alors, le carême, je sais évidemment que ça dure 40 jours, mais pourquoi 40, pourquoi pas? Enfin bon, il y a sûrement une expion.
Dans la Bible, vous ne trouvez pas une injonction à vivre 40 jours de carême. En revanche, nous voyons les exemples. Quels sont ces exemples? Il y a d'abord le peuple hébreu qui traverse le désert pendant 40 années avant d'arriver à la terre promise. C'est un passage de l'esclavage en Égypte jusqu'à la libération de la terre promise. Avant cela même, il y avait Noé qui avait passé 40 jours sur son arche alors que le monde était recouvert par l'eau qui avait tout balayé. Et après 40 jours, Noé peut retrouver la terre promise et la vie peut reprendre, purifiée du péché qui avait envahi l'humanité. Mais le plus grand des exemples, évidemment, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui, avant sa vie publique, commence par passer 40 jours dans le désert de Judée pour lutter contre le mal, lutter contre Satan et préparer sa vie publique.
Oui, alors ces 40 jours, effectivement, je me souviens, aux enfants de Gathée, on en parle, et à lutter contre Satan, etc. Alors moi, je me dis, en fait, Jésus, il nous montre l'exemple de... Alors, est-ce qu'il faut qu'on se mette en retrait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on vive pendant ces 40 jours?
Alors, pour vivre ces 40 jours, il faut d'abord se souvenir quel est l'objectif. L'objectif, c'est renouer l'amitié avec Dieu. L'objectif, c'est d'ouvrir et d'élargir son cœur. C'est de se décentrer de soi-même. Il y a trois axes qui sont additionnels de la prière, du partage de l'aumône et de la pénitence,
oh là,
le jeûne.
La pénitence, alors là, moi, je trouve que c'est un mot qui peut faire... qui peut faire peur, qui n'est pas très à la mode, qui...
Enfin... Pénitence.
Oui, eh bien, c'est un peu ça.
Je me demande justement si un des problèmes de notre époque, c'est justement de ne pas savoir faire pénitence. En particulier, il y a la question derrière de la frustration. Nous savons bien que rendre service à ses enfants, pas de leur céder tout ce qu'ils veulent tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, après... leur désir superficiel prend le dessus et ils seront malheureux de ne pas avoir toujours tout de suite tout ce qu'ils veulent. En particulier, entre l'âge de 2 et 5 ans, ai-je entendu parfois, il est très important d'apprendre la frustration pour pouvoir ensuite être heureux plus tard plutôt que toujours désabusé, désireux de plein de choses et finalement de ne pas avoir de vrais désirs profonds. Alors, c'est vrai pour les enfants de 2 à 5 ans, mais sans doute c'est vrai pour les enfants de Dieu que nous sommes.
Mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il faut vivre aussi de frustration, ça nous apprend la vie. Sinon, je ne sais même pas si on peut être heureux, parce que du coup, on n'arrive plus à être heureux de ce que l'on a.
D'une part, et puis la frustration, la pénitence, les efforts nous permettent d'aiguiser notre désir pour faire ressurgir les désirs les plus profonds. Et c'est dans ces désirs les plus profonds que nous évidemment le lien avec les autres, le lien avec Dieu, qui sont parfois encombrés, envahis par l'importance trop grande que nous donnons à nous-mêmes.
Alors en fait, le carême, on pourrait dire aussi que c'est un peu un entraînement. Comme pour les sportifs, on s'entraîne pour laisser plus de place à Dieu, si je vous comprends.
Exactement, un entraînement, une musculation, une manière d'éduquer notre volonté et en gardant tout de même en tête que ce n'est pas faire de l'héroïsme en termes de volonté qui est le plus important, c'est vraiment de reconnaître, découvrir de plus en plus combien nous sommes des êtres fragiles dans la main de Dieu, combien nous avons besoin de Dieu. Et par exemple, ce jeûne que l'Église demande le mercredi des cendres et le vendredi saint, lorsque nous le vivons sérieusement, vraiment, cela nous permet de redécouvrir combien en réalité nous sommes fragiles. Vous parlez d'entraînement ?
Oui, je parlais d'entraînement, oui.
Eh bien, une autre image, j'aime bien, c'est une image de Saint François de Sales. Saint François de Sales vit au tout début du XVIIe siècle. Et lui, il nous parle d'horlogerie. Alors, l'horlogerie, pourquoi l'horlogerie ? À son époque, c'est le début de l'horlogerie. Et pour qu'une horloge fonctionne, à l'époque de Saint François de Sales, il faut pouvoir la remonter le matin. Il faut la remonter le soir, les ressorts ne sont pas très efficaces à cette époque, et puis une fois par semaine, il faut la remettre à l'heure. Et ce n'est pas le tout. Saint François de Sales nous fait remarquer que pour que l'horloge continue à fonctionner, il faut la démonter en entier et la remonter en entier pour que tous les rouages et que l'horloge continue à fonctionner longtemps. Eh bien, cette description de l'horlogerie, c'est une bonne description aussi de notre vie spirituelle, puisque un chrétien normalement constitué prie le matin, comme quand on remonte le ressort de l'horloge, prie le soir pour remercier le Seigneur pour la journée, remet les pendules à l'heure une fois par semaine le dimanche en retrouvant la communauté chrétienne pour écouter la parole de Dieu, célébrer, sanctifier le jour du Seigneur, et puis une fois par an, la retraite pour pouvoir mettre de l'huile dans tous les rouages et faire un point plus profond sur notre amitié avec Dieu, la révision annuelle en quelque sorte.
Ah, j'aime beaucoup cette analyse à découvrir. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est très imagé. J'ai une question quand même à vous poser. Le carême commence avec le mercredi des cendres, donc c'était le 22 février dernier. Donc il y a des célébrations, voire des eucharisties. On nous met de la cendre sur le front, un signe de croix avec de la cendre sur le front. Alors ça paraît quand même, je me souviens quand j'étais enfant, même un peu bizarre, un peu mystérieux tout ça. Vous pouvez expliciter un peu plus ?
C'est à la fois un signe très profond et souvent assez drôle par ailleurs, lorsque l'on voit des dames élégantes avec leur fond de teint sur le front desquelles on place de la cendre qui tombe sur le bout du nez. Mais c'est vraiment un signe d'humilité qui nous rappelle d'où nous venons. D'où venons-nous ? Eh bien, de la terre. Et où retournera notre corps ? À la terre, poussière. Donc ne nous prenons pas trop au sérieux. Voilà ce que nous rappelle la cendre. C'est un geste biblique. Cela nous vient de la Bible. Nous le trouvons par exemple chez Jonas. S'asseoir, se coucher dans le sac et la cendre, c'est une manière de crier vers Dieu, de se faire remarquer de notre Dieu en implorant sa miséricorde, son pardon, en se retournant vers lui. C'est un signe de conversion, de retour vers Dieu.
De retour vers Dieu. Et c'est pour ça que le prêtre souvent nous dit « Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle » lorsqu'il impose les cendres sur le front.
Exactement. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. L'autre formule, c'est « Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. »
Donc pour nous rappeler un peu notre humilité. Alors, bon, nous avons un peu fait le tour du carême, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais justement, avant de débuter ce carême, bon, vous, Père Hugues, et avec certains autres de vos confrères, vous étiez parti en retraite, il me semble, justement, peut-être pour vous préparer à vivre ce carême, pour cet important temps de retrait, comme Jésus a fait d'ailleurs dans le désert.
Exactement, retraite, temps de retrait, retraite annuelle, qui est obligatoire d'ailleurs pour les prêtres, tellement c'est essentiel, nécessaire, au moins une semaine par an, pour, comme dit Saint François de Sales, vérifier les rouages, réviser la mécanique, et puis dépoussiérer notre vie avec Dieu. Alors effectivement, nous avons eu la chance de partir un petit peu avant le carême avec une vingtaine de prêtres de notre diocèse de Chartres, de notre département, prendre le temps de la prière, prendre le temps du silence. Nous sommes partis en Bretagne, à Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est un lieu qui est très privilégié pour pouvoir être face à la mer, la création, Dieu, dans une maison qui comporte quelques chapelles où on peut se retirer, oratoire. Et nous avons suivi ainsi, pendant une semaine, les enseignements de notre archevêque, Monseigneur Jordi, qui nous a permis de nous promener dans l'Évangile selon saint Jean et être auprès de Jésus lorsque Jésus fait des grandes rencontres. Nous avons donc médité sur les rencontres de Jésus avec des personnages qui sont devenus proches de nous et qui nous ont permis aussi de relire notre propre vie. Passer du temps avec la parole de Dieu, nous laisser enseigner. On voit par exemple chez Saint Jean-Baptiste qui apprend à ses disciples à écouter de telle sorte que Saint Jean-Baptiste ensuite puisse s'effacer devant Jésus. D'ailleurs, il ne cherche pas à les retenir. C'est une vraie leçon pour nous. On voit Marie à Cana qui présente la situation problématique à Jésus. Oui, les mariés n'ont plus de vin. Et Marie ne dit pas à Jésus ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais Jésus va nous ouvrir à une solution. Il y a Nicodème qui est un savant en Israël et qui arrive en sachant plein de choses sur Dieu et qui repart en ayant saisi qu'il doit se mettre à l'école de Jésus, la Samaritaine, etc. Vraiment des belles rencontres que nous avons pu vivre grâce à cette retraite et grâce à la parole de Dieu.
Oui, je crois aussi que ces retraites sont importantes pour vous retrouver avec les autres frères prêtres du diocèse, parce que pris par chacun les temps, l'occasion que ça de vous retrouver.
Effectivement, mais alors curieusement, ce sont des retraites en silence, retenir la fraternité en silence. En réalité, vivre ensemble, les repas en silence, la prière en silence, crée une cohésion qu'on a du mal à imaginer et pourtant très profonde, une vraie fraternité, communion des cœurs, de l'amitié entre nous.
Oui, parce que le silence n'évite pas les échanges de regards aussi. Et dans un regard, des fois, il en est dit beaucoup plus long, ne serait-ce que dans les évangiles. Jésus posa son regard, il l'aima, enfin voilà.
Et lorsque l'on prie ensemble en silence, on sent que notre proximité avec le Seigneur Jésus nous rapproche aussi entre nous. Alors ça, c'était pour la retraite des prêtres du diocèse. Tous n'ont pas pu y aller, par exemple, pour la paroisse Saint-Lubin-du-Perche, autour de Nogent-le-Rotrou. L'autre prêtre de la paroisse, le père Louis-Marie Cuisinier, ne pouvait pas être avec nous, il était au camp Théoski, et il a donc profité de la deuxième semaine des vacances pour aller lui aussi en retraite, mais dans un autre lieu, Saint-Benoît-sur-Loire, porté par la prière des moines, porté par l'intercession de Saint-Benoît. Les reliques sont déposées depuis 660 dans les piliers sous le cœur de l'abbatiale, une image de nos saints du ciel qui nous portent par leur intercession.
Oui, je sais qu'il est revenu aussi enjoué n'est pas forcément le thème, mais tout apaisé de cette retraite. Je pense que ça apporte beaucoup de paix aussi.
Renouvelé,
voilà exactement le terme que je voulais employer.
Alors ce sont des retraites en retrait du monde, mais pour la paroisse Saint-Lubin-du-Perche, bien d'autres manières seront proposées de faire une retraite, en particulier une retraite paroissiale qui permettra tous les mardis du carême de réfléchir sur les 7 péchés capitaux pour mieux comprendre d'où viennent nos mauvaises habitudes, les péchés capitaux, et pourquoi ils sont toujours d'actualité. Ça, c'est pour louer, prier ensemble, nous former. Mais peut-être qu'il y a la dimension de partage aussi sur laquelle vous pourriez nous dire un petit mot, le Collège Delfeuille.
Alors, oui, voilà, le Collège Delfeuille, il y aura un de riz tous les ans avec les collégiens qui le souhaitent. Donc, au lieu de manger un repas à la cantine, ils mangeront un bol de riz. Et cette année, le choix a été fait de faire intervenir ATD Carmonde, qui est présent sur nos roues, qui œuvre auprès des plus pauvres, des plus petits, qui a créé aussi des jardins partagés sur Nogent-le-Rotrou, mais dont, en fait, l'objectif est de dire non à la misère. Non à la misère.
Alors, un objectif. Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons un beau et saint carême de conversion pour revenir vers le Seigneur. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir et beau chemin vers Pâques.